France Culture, il est midi 31. Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Face à la pression de Madrid, le président du Parlement catalan repousse la session qui devait avoir lieu aujourd'hui pour investir l'indépendantiste Puigdemont. Le président accuse la Cour constitutionnelle espagnole de violer les droits de millions de Catalans suivis de ce conflit avec Marie-Pierre Véraud. Moscou organise à Sotchi une conférence sur la Syrie pour tenter de tirer un bénéfice politique de son intervention militaire en soutien à Bachar al-Assad, correspondance de Claude Bruyot. La guerre au Yémen des combattants séparatistes du sud du Yémen, soutenu par les Émirats arabes unis, encercle maintenant le palais présidentiel à Aden, seconde ville du pays, suivi avec Éric Biégala. L'actualité en France, les personnels des maisons de retraite en grève aujourd'hui, mobilisation nationale inédite à l'appel d'une large intersyndicale. C'est Annabelle Grolier qui suit pour nous ce dossier. Et puis le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre sur l'état du mal logement en France. 4 millions de personnes concernées, 12 millions fragilisées. La Fondation dénonce une érosion des piliers du modèle français de protection. Compte rendu de Mélanie Juvet, l'invitée de la séquence interview en direct de l'Assemblée, Monique Iborra, qui est députée La République En Marche de Haute-Garonne. Et dans la dernière partie de la grande table, Olivia Gesbert.
Alors, est-ce une entreprise de réhabilitation après les critiques, notamment de Gérald Bronner ou encore de Nathalie Hennick? On va parler aujourd'hui de Pierre Bourdieu et de son apport à la sociologie. En quoi est-il aussi encore actuel aujourd'hui? Avec le sociologue Marc Joly, qui publie Pour Bourdieu au CNRS Éditions. Un plaidoyer? Non. Un éloge? Non. Je ne sais pas, on va lui demander, on va lui poser la question.
Le président du Parlement catalan a donc décidé de retarder cette séance plénière tant attendue qui devait investir aujourd'hui Carles Puigdemont. Peu avant, le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, avait prévenu des risques encourus par le président du Parlement s'il maintenait cette session en dépit de son interdiction par la justice. Et le président du Parlement, donc, qui repousse la séance, accuse la Cour constitutionnelle de Madrid de violer les droits de millions de Catalans. Bref, le combat continue. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour Antoine.
Tension très très forte encore à Barcelone. D'un côté, les indépendantistes qui veulent faire élire Puigdemont, qui dispose, il est vrai, d'une majorité à l'Assemblée, et de l'autre, ce gouvernement espagnol qui veut donc les en empêcher. Session repoussée, pas annulée. Quelle est maintenant la stratégie des indépendantistes?
Eh bien, ils semblent aller au bout de ce qui est légalement possible sans abandonner une candidature de Puigdemont et en continuant à en appeler à la démocratie. Jusqu'à présent, c'est assez habile de la part de Roger Torrent, le président du Parlement catalan, qui se place à la fois sur le terrain juridique et sur le terrain politique. La Cour constitutionnelle de Madrid lui a interdit samedi dernier de conduire une session d'investiture sans la présence physique du candidat à la présidence. Eh bien, il la journe donc, donnant des gages à Madrid, mais maintient que Carles Puigdemont est le candidat légitime choisi par le Parlement et qu'il a tous les droits pour le rester. Peu avant 10h, Roger Torrent a en effet donné de la voix, accusant la Cour constitutionnelle d'avoir violé les droits de millions de Catalans qui ont voté pour Puigdemont. Il s'est indigné qu'une Cour puisse dicter au bureau d'un Parlement démocratiquement élu, comment il doit interpréter son propre règlement. Ce n'est pas au tribunal, martèle-t-il, de décider qui doit être le président de Catalogne. Voilà pour le terrain politique. D'ailleurs, les indépendantistes et Roger Torrent ont déposé un recours contre l'interdiction formulée par la Cour constitutionnelle de Madrid. Recours qui doit être examiné en début d'après-midi. C'est jusqu'à cette décision que la séance d'investiture est ajournée. Voilà pour le terrain juridique. D'ailleurs, Madrid se félicite peut-être un peu vite de voir que le droit a prévalu.
Oui, dans ce conflit Madrid-Barcelone, pardon, le gouvernement central se livre, vous venez de nous l'expliquer, à une bataille juridique, mais c'est une stratégie qui peut quand même trouver assez vite des limites si elle entraînait un véritable déni de démocratie à ciel ouvert, si je puis dire.
Oui, Mariano Rajoy a en effet perdu les élections en Catalogne qu'il avait lui-même convoquées. Et si Puigdemont ne les a pas remportées, l'alliance qu'il conduisait est arrivée en tête des formations indépendantistes qui dominent le Parlement. Il est donc logiquement le candidat. Roger Torrent maintient sa candidature. Les indépendantistes se sont eux assurés d'avoir les suffrages nécessaires pour l'élire, en acceptant que les députés élus emprisonnés puissent déléguer leur vote pour l'investiture. Ça pourrait être cet après-midi. D'un point de vue politique donc, et non d'un point de vue légal, arrêter un candidat qui se soumet à un processus démocratique d'investiture serait très délicat pour Madrid. Le député Puigdemont, lui, continue à narguer Madrid. Il fait valoir qu'il bénéficie normalement de l'immunité parlementaire et a tweeté ce matin, c'est aujourd'hui le jour de la paix, un bon moment pour se souvenir que le respect des droits civils et politiques est fondamental pour la paix. Hashtag investiture.
Marie-Pierre Véraud, merci. Les personnels des maisons de retraite sont en grève aujourd'hui en France. Une mobilisation nationale inédite à l'appel d'une large intersyndicale, avec le soutien aussi de l'association des directeurs, de plusieurs associations de retraités également. Des rassemblements sont organisés sur tout le territoire. À Paris, il est prévu à 14h devant le ministère des Solidarités et de la Santé, avec une délégation qui doit y être reçue. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, évoquait ce matin une violence institutionnelle subie à la fois par les personnes âgées et les personnels de ces maisons de retraite médicalisées. Voilà. Donc Laurent Berger, que nous n'avons pas pour l'instant, en tout cas l'extrait de France Inter. Donc nous allons directement sur le dossier avec la ministre de la Santé et des Solidarités, Agnès Buzyn, qui assure comprendre la colère et l'épuisement des personnes des maisons de retraite, mais qui refuse toutefois de débloquer davantage de fonds et qui rappelle que les EHPAD ont connu une hausse sans équivalent de leur budget ces dernières années. Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors finalement, quelle est la hauteur du financement public et de quelle somme parle-t-on dans cette bataille syndicale dans les maisons de retraite?
Alors, les dépenses publiques consacrées à la perte d'autonomie atteignent 21 milliards d'euros par an. Ce n'est pas rien, c'est plus d'un point de PIB. Et on ne peut donc pas dire que la solidarité nationale ne marche pas. Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de Santé, fait valoir que les moyens alloués aux EHPAD par l'État sont passés en 10 ans de 5 à 10 milliards d'euros par an. C'est vrai aussi. Le problème, c'est qu'ils ne répondent pas aux défis démographiques. En 10 ans, le nombre de personnes âgées de plus de 80 ans a doublé. Ils sont aujourd'hui 5 800 000 et près de 20% d'entre eux sont dépendants. Et la réalité, c'est que malgré cet effort de la collectivité, et sans compter le coût de l'aide informelle réalisée par les bénévoles ou les proches, les familles en sont quand même pour leur poche de plus de 7 milliards d'euros. Car si les soins sont presque intégralement remboursés, ce n'est pas le cas des dépenses d'hébergement. Car rappelons-le, le système repose sur trois sources de financement. Le budget soins, intégralement à la charge de l'assurance maladie, sert à financer le personnel soignant et les équipements médicaux. Le budget dépendance, financé majoritairement par les départements et en partie par les résidences, sert aux prestations d'aide et de surveillance des personnes âgées en perte d'autonomie, donc comme les aides-soignants ou les psychologues. Le budget d'hébergement, hôtellerie, restauration et animation, est à la charge du résident qui, en fonction de sa situation financière, peut percevoir les aides publiques. Bref, la somme restant à charge des résidents, après ces aides, a été évaluée à 1758 euros par mois en moyenne, alors que la pension de retraite moyenne est de 1376 euros. Ce n'est donc pas tant les places en EHPAD qui manquent à ce jour, mais des places à un prix accessible. Les maisons de retraite sont accessibles aux plus riches qui en ont les moyens et aux plus pauvres qui peuvent demander l'aide sociale. Pour tous les autres qui sont la majorité, eh bien ils doivent compter sur leur famille ou vendre leur patrimoine.
Annabelle Grelier, merci beaucoup. On est en ligne avec Monique Iborra, qui est députée La République En Marche, présidente de la commission des affaires sociales et qui a publié un rapport sur la question il y a quelques mois, au mois de septembre je crois. Bonjour madame.
Bonjour.
Quel est le problème principal, en quelques mots, avant qu'on y revienne plus longuement à la fin de cette édition?
Oui, il n'y en a pas qu'un, malheureusement. Il y a un problème, comme ça vient d'être dit, il y a un problème de financement, un problème d'organisation, un problème d'effectif, un problème de formation, un problème de recrutement. Et enfin, il y a un problème de modèle. Le modèle aujourd'hui des EHPAD ne correspond plus aux personnes qui arrivent là maintenant dans les EHPAD très tardivement, 85 ans la moyenne, avec souvent des polypathologies et quelquefois souvent même des troubles du comportement. Et que donc, d'une part, la médicalisation est tout à fait insuffisante et l'environnement lui-même, l'environnement social, sociétal est également insuffisant et complètement déconnecté de l'attente des personnes et de ce qu'on peut leur proposer. Donc il y a un problème dans le modèle, un problème dans l'organisation, un problème dans le financement.
Pour ce modèle, en un mot, c'est-à-dire qu'il faudrait créer des structures plus spéciales pour des personnes plus âgées, effectivement, et qui sont pas seulement dépendantes, mais également qui ont besoin de soins tout à fait particuliers quant à la perte notamment d'autonomie complète.
Alors ça existait, hein, c'était des lits qui étaient dans les hôpitaux, qui peu à peu ont été fermés. Où ont été transformés en EHPAD hospitaliers. Et donc, on s'aperçoit bien là que les EHPAD, alors que c'était pas ce qui était prévu au départ, quand elles ont été créées, sont devenues la dernière étape, finalement, et avec une organisation qui correspond pas aux besoins. La réalité, elle est quand même là. On a fermé des lits hospitaliers, mais On les a finalement fait passer dans ces EHPAD qui sont pas équipés, organisés de manière satisfaisante.
Monique Iborra, merci beaucoup. On vous retrouve dans la suite de cette édition et tout à l'heure pour reprendre cette question plus largement avec Annabelle Grelier. Un mot de la croissance du produit intérieur brut dans la zone euro qui s'est élevée à 2,5% l'an dernier. C'est le niveau le plus élevé depuis 10 ans, donc dans cette même zone euro, statistique de l'Office européen Eurostat. La croissance française reste en deçà de cette moyenne pour la même période avec 1,9%, avec quand même un plus haut jamais atteint depuis 6 ans.
Midi 42 sur France Culture, la suite de votre journal. Antoine Mercier, la Fondation Abbé Pierre présentait ce matin son 23e rapport sur l'état du mal-logement en France. 4 millions de personnes sont concernées et au-delà, 12 millions sont fragilisées.
Oui, la Fondation dénonce une érosion des piliers du modèle français de protection du fait de la politique du gouvernement. Mélanie Juvet, bonjour.
Bonjour.
Vous avez donc lu pour nous ce rapport annuel qui permet finalement, ces rapports annuels, année après année, permettent de reconstituer quand même les grandes tendances sur la question.
Oui, selon le rapport, les indicateurs caractérisant le mal-logement sont dans le rouge. Parmi les 4 millions de mal-logés, on compte des personnes privées de confort, sans logement personnel ou sans domicile. Cette situation des sans-domicile s'aggrave brutalement, symptôme le plus spectaculaire de la crise du logement, selon la Fondation. Entre 2001 et 2012, le nombre de personnes sans domicile a augmenté de 50% pour atteindre 143 000 personnes touchées. Depuis 2012, date de la dernière enquête de l'INSEE, la hausse se serait poursuivie car il y a plus de places en hébergement d'urgence et plus d'appels au 115 par exemple. D'autres tendances se dégagent du rapport. Augmentation du surpeuplement accentué lorsqu'il manque deux pièces pour vivre correctement dans le logement et hausse du nombre de personnes qui habitent par obligation chez une tierce personne.
Il y a aussi une contradiction finalement, c'est que la qualité de vie s'améliore globalement mais que la situation des foyers précaires, elle, se dégrade.
Oui, seul indicateur encourageant, le confort sanitaire de base continue de s'améliorer. 99% des logements ont l'eau courante, des WC et du chauffage. Mais les foyers les plus modestes se privent volontairement de confort à cause de son coût. Comme le chauffage, justement, les Français sont 44% de plus qu'en 2006 à le couper. Si le nombre d'impayés reste stable, il y a une hausse des expulsions locatives. L'accès à la propriété aussi semble de plus en plus inégal à cause de la précarisation des revenus des classes moyennes, populaires et la hausse des prix de l'immobilier. Une logique contradictoire donc que la Fondation dresse comme un constat. C'est comme si des millions de personnes, en plus d'être mal logées aujourd'hui, se voyaient assignées à le rester toute leur vie.
Mélanie Juvet, merci. Autre baromètre, celui du Cevipof sur la confiance des Français dans les institutions. C'est la 9e vague de ce baromètre annuel avec une nouvelle chute du taux de confiance global envers les fonctions politiques, sauf cette année envers le chef de l'État. Les 2200 Français représentatifs qui ont été interrogés par Opinionway et le Cevipof créditent Emmanuel Macron de tenir ses engagements. Ils reconnaissent que la situation économique a tendance à s'améliorer, mais ils demandent davantage de justice sociale. Ludovic Piétenu, vous avez lu pour nous cette enquête que publient les Échos ce matin.
Oui, les Français disent que le climat économique va mieux. Vous avez parlé de la croissance, Antoine. Les acteurs économiques, surtout, vont mieux. Le moral des patrons s'est amélioré. Et dans cette enquête, les Français interrogés ont bien perçu les réformes menées jusqu'à présent sur le plan économique. Ils y sont d'ailleurs plutôt favorables, mais ils souhaitent aussi l'équilibre promis par Emmanuel Macron pendant sa campagne. Dans ce baromètre, toutes les questions qui ont trait à plus de justice sociale sont en hausse par rapport à l'an dernier. Exemple, faut-il réduire le nombre de fonctionnaires? Les Français sont un peu moins à le souhaiter, moins 2 points et moins 6 points depuis 3 ans. Faut-il s'occuper davantage de la compétitivité des entreprises ou bien de l'amélioration de la situation des salariés? Eh bien, cette année, c'est un peu plus la situation des salariés. Idem pour une réforme complète du système capitaliste. Pour 47% désormais des personnes interrogées, une hausse de 6 points par rapport à l'an dernier, on pourrait encore, comme cela, multiplier les exemples. Après bientôt 9 mois de présidence, Macron, les Français ont bien vu fonctionner la jambe droite. Ils demandent à la jambe gauche d'entrer en action. Dans le mantra de sa campagne présidentielle, souvenez-vous, libérer et protéger, ils veulent voir et goûter à la protection. Sauf à ce qu'Emmanuel Macron choisisse de s'enfermer définitivement dans cette image de président des riches ou d'homme trop droitier, mais comme tout dirigeant, en homme très attentif au mouvement de l'opinion, il n'a pas l'intention que cette idée s'infuse, d'où l'agenda social des prochains mois, réforme de l'assurance chômage, de la formation professionnelle, puis des retraites, et cette attention toute particulière demandée récemment à ses ministres aux signaux dit faible de contestation et de mécontentement, échaudé déjà par le mouvement dans les prisons, les hôpitaux, aujourd'hui les EHPAD, et qui ont pris de court cet exécutif trop occupé à l'unijambisme.
Ludovic Piétenu, merci. Monique Iborra, peut-être un petit mot là-dessus. Donc les Français préoccupés par la question sociale, ça veut dire qu'ils ne croient peut-être pas trop à la théorie du ruissellement ou à sa déclinaison, la théorie du premier de cordée dont parlait le chef de l'État ?
Oui, ce sont des images qui, en effet, ont probablement frappé les Français, mais qu'en est-il de la réalité ? D'abord, on a un président qui, dans un premier temps, fait ce qu'il a dit et ce pourquoi il a été élu. C'est quelque chose qui n'était pas courant jusqu'à présent, et pourtant, je pense que les Français ont accepté, en effet, que on ait un président aujourd'hui qui fait ce qu'il a dit. Au-delà de ça, il est bien évident que il a toujours été affirmé qu'avant de redistribuer, il fallait produire. Et qu'avant de produire, eh bien, il fallait s'occuper en effet un peu d'économie. C'était libéré, c'était le terme libéré. Mais en effet, et les Français ont raison, il y avait un autre terme qui était celui de protéger. Donc, dire que jusqu'à ce jour, on a fait surtout libérer, on n'a pas protégé, c'est pas tout à fait vrai. On a pris quand même un certain nombre de dispositions qu'on a votées à l'Assemblée nationale, d'ailleurs, dans le plan de financement de la sécurité sociale, qui sont des éléments qui sont intervenus pour les plus faibles. C'est l'augmentation de la prime d'activité, en particulier pour les salariés. Vous savez ce que c'est que la prime d'activité ? C'est une prime qui avait été mise en place par l'ancien gouvernement, certes, et qui intervient pour compléter le salaire des personnes qui travaillent et qui sont au SMIC. Nous l'avons augmenté, nous l'avons...
On ne va peut-être pas reprendre toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement.
Oui, mais je donne juste quelques exemples qui montrent que le protégé existe aussi, que le logement dont on parle, et on a raison d'en parler, nécessite une réforme profonde et que néanmoins, je donne un exemple là aussi, 144 000 places d'hébergement d'urgence ont été ouvertes cet hiver, soit 10 000 de plus que l'année dernière à la même période. Donc, dire que nous ne faisons rien, je pense que c'est pas, on peut pas l'entendre, mais dire qu'on doit aller plus loin, oui, on est tout à fait d'accord, et cet aspect des choses protégées, on doit en effet le mener avec détermination, et c'est ce que nous faisons, honnêtement, c'est ce que nous essayons de faire, en tout cas, à l'Assemblée, et particulièrement à la Commission des Affaires Sociales.
Voilà, donc vous êtes la présidente. Monique Iborra, on vous retrouve encore dans quelques minutes pour parler à nouveau des EHPAD, mais on passe à l'actualité internationale.
Avec la Russie, Antoine Mercier, qui tente de tirer un bénéfice politique de son intervention militaire en Syrie, qui a permis à Bachar el-Assad de reprendre l'avantage sur le terrain. Moscou organise aujourd'hui à Sochi une conférence sur la Syrie.
Oui, les diplomaties russes peinent toutefois à convaincre des représentants de la société civile et politique syrienne de surmonter leur division aggravée par 6 ans de guerre pour les bases d'un règlement politique. On verra donc cela avec Claude Bruyot sans doute dans nos prochaines éditions. On dit un mot aussi de la guerre au Yémen avec les forces du Conseil de transition sudiste qui sont favorables à l'indépendance du Yémen du Sud et qui sont soutenues par les Émirats arabes unis qui se sont emparés ce matin du dernier bastion que tenaient encore les troupes loyalistes qui, elles, sont appuyées par l'Arabie saoudite. Le gouvernement, en fait, est confiné maintenant dans le palais présidentiel de cette ville d'Aden, la deuxième ville du pays, qui est aux mains maintenant des indépendantistes. Eric Bigala.
Oui, Aden, c'était la capitale provisoire du Yémen, celle à partir de laquelle les forces loyales au président Abdrabo Mansour Hadi, appuyées par une coalition de pays du Golfe, Arabie Saoudite en tête, entendaient reprendre le reste du pays à la milice des Houthis, appuyée, elle, par l'Iran, et qui contrôle le nord et la véritable capitale du Yémen, Sanaa. Mais à Aden, où Abdrabo Mansour Hadi avait installé son gouvernement provisoire, lui-même demeurant en Arabie Saoudite, il fallait aussi compter avec les forces locales qui milite de longue date pour l'indépendance d'un Sud-Yémen. Un Sud-Yémen qui a déjà existé en tant qu'État entre 1967 et 1990 et dont Aden était la capitale. Ses forces, alliées de Mansour Hadi jusqu'à ce week-end, avaient commencé à s'en détacher suite à la mise à pied de leur ancien leader, le gouverneur d'Aden, en avril dernier. Ces dernières semaines, elles réclamaient la démission du gouvernement de Mansour Hadi, particulièrement celle de son premier ministre, accusé de corruption. Et c'est une manifestation demandant cette démission, manifestation interdite et réprimée par le gouvernement qui qui a mis le feu aux poudres ce dimanche. Les milices du Conseil de transition du Sud, les indépendantistes, se sont alors déployés dans la capitale provisoire, affrontant les forces fidèles à Mansour Hadi. Et ce mardi matin, les miliciens du Conseil de transition du Sud contrôlent la plupart des bâtiments gouvernementaux. Ils ont réduit militairement la principale base pro-gouvernement au nord d'Aden. Ce qui reste du gouvernement se trouve aujourd'hui confiné, assiégé dans le palais présidentiel au sud de la ville. Au total, Abd Rabo Mansour Hadi vient de perdre en 48 heures non seulement des alliés de poids dans le conflit qu'il oppose aux Houthis, mais aussi sa capitale.
Merci Eric Biégalard. On revient vers vous donc, Monique Iborra, pour la dernière séquence de ce journal. Je rappelle que vous êtes députée de La République En Marche de Haute-Garonne, présidente de la Commission des Affaires Sociales, et que vous étiez particulièrement occupée de la situation dans les EHPAD, puisque vous aviez remis un rapport en septembre sur la question, une question d'Annabelle Grelier.
Oui, vous aviez fait 5 constats et 5 propositions, Monique Iborra. Dans votre premier constat, c'est forcément le sous-effectif évident, hein, que personne ne peut contester.
Absolument, oui, ça, je pense que personne ne le conteste, et j'ai pu, au-delà de la première mission, puisque je suis en cours de la deuxième mission définitive, j'ai fait 15 déplacements, j'ai vu 15 établissements, qu'ils soient publics, privés, privés commerciaux, privés à but non lucratif, et il est évident qu'il y a un sous-effectif, qui est un sous-effectif chronique, et qui ne correspond plus à la prise en charge réelle des résidents.
Oui. Donc on parle toujours de ce taux d'encadrement qui est de 0,6, qui est quand même très inférieur à la moyenne européenne.
Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle je l'avais prévu dans ma mission dite Flash. J'ai organisé un groupe de travail pour réfléchir à l'élaboration de normes minimales qui existent, hein, ailleurs dans d'autres pays, puisqu'en effet, comme vous le dites, chez nous, ça varie du 0,4 au 0,6. Et donc, on est en train de discuter sur la possibilité d'avoir des normes minimales qui sont...
Alors,
pas
les syndicats
des
demandent
maximales.
Un agent par résident. J'imagine que c'est bien au-delà de ce que l'on peut faire. Hein.
Oui, je pense qu'on n'ira pas jusque-là. Et si on arrive à quelque chose d'intermédiaire entre ce qui est aujourd'hui et ce qui serait, ce qui pourrait être... Vous savez, c'était ce qui était demandé depuis 2006. Mmh. Et ça n'a jamais été appliqué. Donc, je n'irai pas jusque-là. Mais je pense qu'il est urgent, même si c'est pas la seule chose qu'il faut explorer. Hein, parce que sur quelque chose qui fonctionne pas bien, vous pouvez ajouter des effectifs, ça va pas mieux fonctionner. Donc, au-delà de ça, il est nécessaire et urgent aujourd'hui de déterminer des augmentations d'effectifs dans les EHPAD.
Alors augmenter les effectifs, c'est augmenter le financement, et des propositions de financement ?
Alors écoutez, là, je vais être très très précise. À la suite de la mission Flash que j'ai faite en septembre, dès le mois de décembre, la ministre que j'avais évidemment alertée, le gouvernement que j'avais également alerté, nous avons eu le projet de loi du financement de la sécurité sociale, et il a été proposé par le gouvernement et bien entendu voté par le Parlement, 100 millions supplémentaires, c'est clair, c'est net, c'est écrit, c'est voté.
Oui, mais ça ne sera pas suffisant. Donc faut-il créer une taxe, créer un impôt supplémentaire ?
Non, un impôt supplémentaire, je pense que ce serait mal supporté, qu'on ne peut pas l'imaginer. Par contre, que le problème aujourd'hui qui mime en application sur la réforme de la tarification, bien, il faut aller un peu plus loin dans l'analyse, parce que au-delà du fait que tout le monde était d'accord au départ sur la philosophie même de cette tarification, il apparaît qu'elle pose des problèmes dans son application. Et qu'il y a des perdants et des gagnants, et que ça a été, de mon point de vue, un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, là, et sur laquelle, eh bien, évidemment, il faut qu'on continue de réfléchir, ne serait-ce que pour faire un état des lieux réel, une étude d'impact réelle, pour savoir qui perd, qui gagne, de manière à ce que personne se retrouve...
Donc, moratoire de cette réforme.
Monique Iborra, merci. Vous venez du Parti Socialiste. Continuez de vous sentir bien dans La République En Marche ?
Écoutez, je me sens très bien dans la République En Marche. C'est pas plus facile que ça n'était dans la majorité précédente. Il y a des choses qui sont très positives, d'autres qui sont nouvelles et auxquelles il faut s'adapter. Mais honnêtement, moi, j'ai été très très bien très bien accueillie par tous ces jeunes là qui sont autour de moi, et je travaille très bien avec eux. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire des petits petits groupes, des groupes. On a besoin de travailler tous ensemble et se mettre d'accord, même si au départ, on a des regards différents. Eh bien, je pense qu'on est capable de se mettre d'accord pour faire avancer la France.
Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez avec Nathalie Lopez à l'Assemblée et Jean-Marie Porcher. La météo, la grisaille va dominer, sauf sur le midi. Du soleil, en effet, des Pyrénées au Languedoc et aux Alpes, avec des températures de 8 à 15 degrés cet après-midi. Édition réalisée avec Brice Garcia. 18h, prochain journal avec Antoine Narette.